À quoi servent les parcs naturels régionaux ? Depuis plusieurs années, l'arc jurassien en compte deux, autour de Chasseral et du Doubs. Leurs deux directeurs sont nos invités dans Place Publique pour défendre le bilan de leurs activités, alors que des critiques se font jour du côté des agriculteurs jurassiens. La journée des droits de la femme, c'était mercredi. Notre chroniqueuse Céline Favre, vous l'entendrez, se montre plutôt sceptique quant à l'utilité d'un tel événement. Nous recevrons aussi pour en parler la députée bernoise Anne-Caroline Graber, pour qui rien n'est acquis en termes d'égalité ou de respect de l'intégrité des femmes. Enfin, nous verrons s'il faut s'inquiéter pour l'avenir des lignes CFF qui traversent l'arc jurassien. Un projet de l'Office fédéral des transports est à l'étude et prévoit de déclasser les lignes Bienne-La Chaux-de-Fonds et Genève-Bâle.
Jusqu'à 19h, Place publique. Gabriel Devec.
Bonsoir, l'arc jurassien compte depuis plusieurs années deux parcs naturels régionaux, le parc régional Chasseral et le parc naturel du Doubs, des labels qui correspondent à des zones géographiques reconnues d'importance nationale pour la valeur de leur paysage, de leur nature ou encore de leur culture artisanale. Pour cette raison, les deux organisations touchent de l'argent des collectivités ou vont chercher des fonds du côté du privé pour la préservation et la mise en valeur de ces territoires. Leur budget se compte en millions ou en centaines de milliers de francs. Des fonds qui permettent de mener à bien des tas de réalisations ou d'activités. Mais on l'a vu cette semaine, côté jurassien, certaines voix, dans le milieu agricole surtout, font part de leurs déceptions, promesses non tenues, projets au point mort. Et si, dans notre région, les parcs naturels régionaux n'étaient que des coquilles vides, des appellations un peu creuses. Alors pour nous prouver le contraire, on a le plaisir de vous accueillir, Thor Meder, bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez le parc naturel du Doubs et à vos côtés, Fabien Vogelsberger, bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez le parc régional Chasseral. Alors on commence avec vous, Thor Meder. Attendu depuis des décennies, le parc naturel du Doubs est opérationnel depuis 4 ans, mais déçoit apparemment certains agriculteurs qui ne voient rien venir. Est-ce que vous avez négligé le milieu paysan, pourtant incontournable dans le périmètre d'un parc tel que le vôtre ?
Non, donc j'entends bien la critique. En même temps, je voudrais rappeler qu'on mène toute une série de projets avec le monde agricole. Je pense ici, par exemple, aux travaux qu'on mène sur la revitalisation de Lisières avec les éco-réseaux du parc du Doubs. C'est plus de 300 agriculteurs qui sont concernés par ce projet. Je pense également à l'offre qu'on met sur pied avec les éleveurs des chevaux de Franche-Montagne, qui permettra à tout un chacun de se rendre chez les éleveurs et de découvrir ce dernier cheval indigène de Suisse. Je pense encore aux travaux qu'on mène sur la labellisation de produits et typiquement la tête de moine qu'on vient de sortir, donc au lait bio, de lait de, en l'occurrence de vache Prospecie Rara. Préparé selon une recette traditionnelle. Voilà, donc en fait, au quotidien, on travaille avec les agriculteurs.
Mais certains, malgré tout, trouvent à redire, notamment parce que peut-être un projet ou un autre, notamment ce centre d'études du cheval, n'a pas vu le jour. Mais pour vous, ça reste un point de détail.
Non, enfin, c'est le fonctionnement de toute démocratie. On entend toutes sortes de voix qui s'appuient sur une réalité et parfois un peu moins.
Disons. Enfin, vous nous prouvez le contraire. Vous dites que au jour le jour, vous travaillez avec plus de 300 agriculteurs, notamment pour la revitalisation des lisières de forêt. Fabien Vogelsberger, le parc régional Chasseral va bientôt sur ses 10 ans. Est-ce que vous avez, vous aussi, dû faire face à un moment de votre développement à la grogne de certains agriculteurs ?
Au début, à la création, en 2002, on avait effectivement des interrogations de la part des agriculteurs qui se demandaient qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi cette mise sous cloche. Et je pense que 15 ans plus tard, c'est vraiment de la discussion historique. On travaille avec les agriculteurs, ils ont bien sûr leurs opinions, mais ils sont très divers aussi. On mène des projets comme par exemple les réseaux écologiques. On est porteur de ces projets, 350 agriculteurs y participent. On a des relations quotidiennes avec eux, donc ça fonctionne à tel point que même le parc est des fois juste réduit à la notion de réseau écologique. C'est assez drôle. Mais sinon, on mène aussi plein d'actions avec les agriculteurs, je pense. Et ces plantations sur arbres, des restaurations de murs de pierres sèches, des valorisations aussi culturelles comme le chemin des anabaptistes. Donc il y a vraiment des choses concrètes qui se passent et les liens sont courants.
Plus généralement, s'il fallait prouver, Thor Meder, en peu de mots, en quoi ces parcs naturels représentent une avancée, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant ?
Il y a plusieurs choses. Côté du parc du Doubs, je dirais que ce qu'on observe maintenant, c'est qu'on a réussi en relativement peu de temps. Là, on parle de processus politique, on va dire, ou citoyen. On a réussi en très peu de temps, finalement, à faire émerger un sens de région qui transcende les cantons, qui transcende aussi les communes.
Et alors qu'il est, ce n'est pas rien ?
Pardon.
Et à l'heure qu'il est, ce n'est pas rien.
Ce n'est effectivement pas rien, non, non, non. C'est juste. Donc on a réussi typiquement sur le Doubs à même amener des gens franco-suisses à se parler qui ne se parlent pas nécessairement auparavant. Donc je pense aux barragistes, aux pêcheurs typiquement, qui maintenant travaillent ensemble pour sauver le Doubs. Je pense par exemple aussi aux responsables des collectivités publiques, enfin des communes en l'occurrence, qui maintenant se parlent sur les questions énergétiques et puis qui en viennent même à développer des projets intercommunaux liés à l'énergie.
Donc on peut dire que vous êtes tous deux parc des structures qui permettent d'accélérer des projets, de fédérer aussi des acteurs. Est-ce que vous avez l'impression que le grand public dans la région se rend compte de votre utilité ? Est-ce que c'est pas compliqué de communiquer sur tous vos projets qui vont, on le sait puisqu'on en parle régulièrement même sur nos radios, qui vont un peu partout dans tous les sens ?
Alors c'est sûr que pour tout un chacun c'est compliqué, puisqu'un parc qui se préoccupe autant de nature, de patrimoine, de travail avec les écoles, de produits du terroir, de transport public par exemple pour monter à Chasseral, ou même d'activités culturelles avec les partenariats qu'on a avec les jardins musicaux, il y en a vraiment pour tout le monde effectivement. Donc chacun finalement peut y trouver son intérêt, mais en même temps ce qu'il faut voir c'est qu'on est dans des régions qui sont très dynamiques, on a beaucoup d'associations locales et c'est surtout avec elles, ces associations locales, ces associations régionales que l'on travaille, et c'est là que les liens sont construits, et c'est ça qui est très important.
Thor Médère, comment vous évaluez-vous votre rapport au grand public ? Est-ce que là, il y a encore pour vous des choses à faire ?
Naturellement, il y a toujours des choses à faire. Donc, je dirais qu'on rencontre ce grand public quasiment, de nouveau, quasiment au quotidien, en tout cas pendant la période estivale, donc lors des différentes sorties qu'on organise. Puis je dirais que si parfois, on a le sentiment qu'au niveau régional, on n'est pas toujours très visible. Au niveau national, par contre, là, on jouit d'une notoriété qui est enviable. Donc, on est Parc Chasseral et Parc du Doubs, les parcs à la plus grande notoriété, en fait, au niveau national.
Fabien Vogelsperger, vous me le disiez, il y a un détail de taille, en fait, qui a son importance. Si, par exemple, on regarde la carte de l'arc jurassien sur Google, pour ne pas le citer, on voit vos parcs, ils sont détourés.
Oui, tout à fait. Et puis pour nous, ça c'est une avancée. C'est un travail effectivement collectif qu'on a pu mener en Suisse. Les parcs, il faut le rappeler, ils ont aujourd'hui 10 ans d'âge en Suisse. Et puis ils ont réussi à faire ce gros travail. Ce sont quelque part des territoires d'excellence. Et on peut le voir tout de suite. Quelqu'un qui vient de loin, il va voir une carte, il verra tout de suite les parcs suisses qui sont en évidence. Et ça, c'est important pour la notoriété de la région.
Alors, il y a une notoriété Thor Médère qui est du coup assez évidente grâce à ce signalement. Mais néanmoins, on a l'impression que dans l'essence même de ce projet, il faut que ce soit peu visible, puisque vous voulez préserver le paysage, la nature. Du coup, toutes vos actions, elles ont pour vocation, on a envie de dire, d'être quasi indolores, invisibles.
Oui, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, on a eu ces discussions sur la signalétique, pardon, où typiquement, on avait des demandes d'être beaucoup plus visibles sur le terrain à l'aide de panneaux, et où on a pris le parti de ne pas apparaître.
Et ça, justement, ça peut vous jouer des tours, mais peut-être que sur Internet, les applications mobiles pourraient vous aider aussi à faire un pas de plus vers une plus grande visibilité.
C'est juste. Et puis c'est d'ailleurs pour ça qu'on recrute maintenant un chef de projet communication en commun.
Pour les gens qui sont curieux, il y a d'ailleurs une application des parcs suisses qui existe. Il suffit de taper Parc Suisse sur votre iPhone et vous trouverez une application avec une série d'offres impressionnantes sur nos deux parcs respectifs, en tout cas.
Alors, on cherche du côté du Doubs un responsable communication. Hein, l'annonce est passée. Du côté du parc Chasseral, on en est où par rapport à ce développement de visibilité, notamment sur les réseaux sociaux, sur les applications? Est-ce que vous avez des projets, voire même de réalité augmentée, soyons fous?
Alors, comme je vous l'ai dit, il y a une application Parc Suisse qui existe avec des informations, je dirais, d'ordre touristique qui sont suffisantes. Et par ailleurs, on diffuse énormément d'informations au moyen de nos newsletters à travers nos membres, où on propose en permanence une série d'activités. Demain soir, c'est la nuit de la chouette à trois endroits sur nos territoires du parc, la Chaux-de-Fonds, les Serlatées, Anneau. Et voilà, tout ça, c'est diffusé en permanence, notamment à travers les médias aussi. Et c'est ça qui est important. C'est le résultat, la découverte de la nature, c'est ça finalement le cœur de notre métier.
Alors on parle de visibilité pour faire voir au public aussi à quoi sert toutes ces actions, labellisé parc naturel régional, au public finalement de la région, c'est quoi l'investissement, en quelques mots, Thor Médère ? Il en coûte combien ? Il en coûte combien à un habitant de la région pour faire vivre ces parcs ?
Alors, entre le parc Chasseral et le parc du Doubs, la cotisation est légèrement différente. Chez nous, c'est 3 francs par habitant jusqu'à 3 000 habitants, 20 centimes au-delà. Donc, c'est 20 centimes, c'est typiquement le cas de la Chaux-de-Fonds du Locle. Et puis, parc Chasseral, c'est, je crois, 4 francs. Un tout petit peu plus, mais à la fin de la journée, ces cotisations communales représentent chez nous quelque chose comme 6 à 8% du financement total de nos deux parcs.
Donc vous allez chercher le reste de l'argent du côté du privé, d'où l'importance aussi de montrer ce qu'on fait, à quoi on sert.
Du privé, de la Confédération des cantons, c'est important, mais c'est vrai que pour des réalisations concrètes, comme des plantations d'arbres et restauration des murs, là on va chercher l'argent auprès de fondations dont c'est la vocation même.
Eh bien je vous remercie infiniment. Tous les deux, Thor Médère, donc du parc naturel du Doubs, et Fabien Vogelsberger du parc régional Chasseral, d'être venus nous parler de vos actions, de leur utilité. On se réjouit bien sûr de les suivre pas à pas, comme on le fait jusqu'à présent. Et on vous souhaite un excellent week-end, une bonne soirée.
Merci à vous. Bonsoir. Merci.
Place publique.
C'était mercredi, la journée internationale du droit des femmes. Et pour en parler, notre chroniqueuse Céline Favre nous a rejoint. Bonsoir Céline.
Bonsoir Gabriel.
Alors dites-moi, comment vous avez vécu cette journée ?
Je me suis dit, waouh, trop cool, une journée juste pour nous les femmes. M'étais-je dit justement en me réveillant ce matin-là, à moi les cadeaux, les fleurs, un resto, un poème, un mot doux, ou même un peu de ménage, d'aspirateur, ou peut-être un coup de balai. Eh ben non, que dalle, rien. Ah non, pardon, c'est pas vrai. On m'a tout de même proposé de me lire l'avenir dans mes vergetures avec un rabais de 50% à l'occasion de la journée des droits des femmes. Alors je dois préciser que je ne possède pas encore de vergeture dans la mesure où je n'ai pas trouvé un seul connard qui veut me faire un enfant. Oups, c'est pas très élégant, connard. C'est un peu grossier, ou bien ?
Je confirme.
Ça vous choque, hein ? Oui, c'est ça, ça vous choque. Ah, c'est moche, une fille qui dit des gros mots quand même. Mais en même temps, je me dis que... Du coup, on parle le même langage, vous les hommes et nous les femmes, qu'on peut probablement mieux se comprendre. Quand dans la rue, j'entends si souvent « Eh madame, t'es trop bonne, t'as vu ce cul ?» Je me dis premièrement « Merci monsieur, grâce à vous, je prends conscience de mon anatomie. Bon sang, j'ai un cul, j'avais failli l'oublier. » Puis je me dis « Zut, c'est pas hyper valorisant cette façon de s'adresser à moi. » Donc moi qui m'attendais à une journée exceptionnelle, à une explosion de bonheur, je ne vous raconte pas ma déception pour ce 8 mars. Non, parce qu'à la place, j'ai eu droit à un moment de grâce, de poésie, mais un peu différent de ce à quoi je m'attendais, je l'avoue. Si le 8 mars, c'est la journée des droits des femmes, c'est aussi et surtout la journée des gros gags bien lourds, hein, bourrés de testostérone, de virilité et de rire bien gras. Hey, mon gars, tu la connais celle-là ? C'est quoi la définition d'une femme qui a perdu toutes ses capacités intellectuelles ? Gabriel, s'il vous plaît.
J'ignore complètement.
Une veuve. Ah mince, qu'est-ce qu'on se marre, c'est trop drôle. Ou encore, hé mademoiselle, je peux vous dire un truc ? Oui, enfin, te sens pas obligée non plus. Ouais, écoutez, l'écart salarial entre hommes et femmes est justifié, ça compense pour toutes les fois où on paie le resto. Ah oui, d'accord, merci beaucoup, merci. Alors évidemment, il y en a beaucoup d'autres, hein, de ces bonnes blagues, mais je décide de vous épargner et je m'arrête là. Alors, en plus, ce fameux 8 mars, jour des droits des femmes, il a quand même été largement piétiné par des événements majeurs, notamment le Salon international de l'auto. Bah oui, on va quand même pas nous laisser une journée toute entière juste pour nous, faut pas déconner, 2-3 minutes, c'est déjà pas mal. Puis les voitures, c'est important quand même. Ça nous permet à nous, les femmes, de faire les courses, d'aller chercher les enfants à l'école, de ramener notre amoureux quand il est trop bourré. Non, il ne faut pas négliger l'importance de la voiture pour la femme.
Et après le salon de l'auto, il y avait un autre événement qui a fait un peu d'ombrage.
Voilà. Donc, attends, c'est pas fini. Donc, parce que... En plus du salon de l'auto, on a vécu mercredi passé un autre événement majeur, mais celui-ci, bien plus dramatique, c'est la défaite du Paris Saint-Germain face à Barcelone. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ces messieurs, sans qui nous ne serions rien, c'est évident, en train de pleurer et de regarder le ciel en se disant « Mais pourquoi tant d'injustice ?» et de me dire « Mince, qu'est-ce que c'est que ces femmelettes ? On a besoin de vous, nous, pauvres femmes inférieures. Vous devez rester solides, dignes, des hommes, des vrais, quoi. Ne venez pas nous faucher nos sanglots, nos niaiseries, que vous devez supporter à longueur d'année. » Parce que s'il y a bien un droit qu'on a acquis sans difficulté, c'est celui-ci. Donc en conclusion, je dois dire que cette journée du 8 mars fut assez pénible pour moi, je l'ai mal vécue en tant que femme. Je souhaite donc que les femmes soient traitées dignement, comme des déesses en tant qu'affaires, toute l'année, sauf le 8 mars, qu'on réservera désormais aux hommes pour qu'ils puissent balancer toutes leurs blagues sexistes, graveleuses et d'un autre temps. Ils en ont à l'évidence besoin. Soyons malignes des femmes, quoi, et offrons-leur notre jour des droits des femmes.
Place publique.
Céline Favre, merci beaucoup. Et précisément sur ce thème, on reçoit Anne-Caroline Graber qui est avec nous par téléphone. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes une élue UDC au Grand Conseil bernois, domiciliée à la Neuville. Alors, une réaction à ce que vous venez d'entendre. Pour vous aussi, la Journée internationale des droits des femmes permet surtout d'enfoncer certains clichés que les hommes s'en donnent à cœur joie?
Écoutez, c'est pas tellement la façon dont je perçois cette journée. Bon, il se trouve que c'est mon anniversaire et je suis particulièrement fière que ça tombe le 8 mars, la journée internationale des femmes. Et puis, pour moi, c'est une journée qui a tout son sens. Parce que même si l'égalité juridique entre hommes et femmes est réalisée dans la plupart des pays occidentaux, il y a encore beaucoup à faire pour que les femmes soient davantage respectées dans leur dignité et puis aussi dans leurs droits effectifs partout dans le monde. Elles sont encore trop souvent victimes de rapports de force détestables de la part des hommes, comme on a pu l'entendre de la part de l'intervenante précédente qui a beaucoup d'humour. Et puis cette journée-là permet aussi de souligner particulièrement le fait que les femmes sont victimes de rapports de force vraiment insupportable et c'est bien de consacrer une journée pour particulièrement s'en rappeler, le souligner. Et puis ensuite, vous savez, pour moi c'est important aussi le 8 mars parce que ça permet de penser, si vous voulez, que les femmes ne sont pas seulement des mamans comme nous le rappelle la fête des mères ou bien des amantes comme nous le rappelle la Saint-Valentin le 14 février, mais que c'est aussi simplement des femmes et des personnes. Et pour ça, pour moi, le 8 mars, c'est important.
Il reste beaucoup de travail, vous l'avez dit, à nos confrères du journal Bilbienne, pour que les femmes soient respectées dans leur dignité, vous en avez parlé, et aussi pour que leurs droits soient effectivement respectés. Vous pensiez à la situation telle qu'on peut la vivre au niveau des salaires, même en Suisse?
Bon, vous savez, au niveau des salaires, on affirme que les femmes seraient payées environ 20% de moins à compétences, formation égale. Alors, c'est vrai que s'il reste encore des progrès à faire dans ce domaine, je pense qu'on a tendance présenter la situation d'une façon un peu plus grave qu'elle n'est. Pour la raison suivante, quand on fait les statistiques, souvent, il y a un biais dans le sens que quand on considère l'administration publique ou bien l'économie privée, en moyenne, les hommes vont occuper plus des fonctions dirigeantes que les femmes. Donc si vous calculez le salaire moyen dans l'administration ou encore une fois dans l'économie privée, vous allez avoir un salaire moyen des hommes plus élevé que celui des femmes, mais pas parce qu'à fonction égale, forcément, les hommes seraient plus payés que les femmes, mais aussi parce qu'encore une fois, les hommes occupent davantage des fonctions dirigeantes que les femmes. Donc, encore une fois, à ce niveau-là, il faut être prudent. Je pense qu'il y a encore des progrès à faire. J'y suis très sensible. Personnellement, je suis extrêmement attachée à l'égalité entre hommes et femmes, mais je pense que parfois, on a tendance à assombrir un tout petit peu la situation.
Parmi les droits des femmes, Anne-Caroline Graber, il y a celui de ne pas subir le harcèlement de rue, on en a parlé. On le voit, plusieurs initiatives sont en route pour contrer le phénomène, du côté de Lausanne notamment, et on l'a appris par nos confrères de l'Express, également du côté de Neuchâtel. Le groupe Pop Versol de la ville de Neuchâtel va déposer lundi une proposition d'arrêté pour contraindre les autorités à prendre des mesures. Je vous propose maintenant d'écouter la conseillère générale Marion Tschigart.
J'ai le sentiment que c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, hein. C'est clair, le harcèlement de rue existe depuis toujours. Aujourd'hui, il y a peut-être une prise de conscience qui se fait dans différentes villes, à Lausanne notamment. Aujourd'hui, Neuchâtel a envie de proposer un outil différent qui, en fait, incite la commune de Neuchâtel à être active, en fait, en proposant quelque chose qui va favoriser une prévention, une formation, une sensibilisation de la population.
Qu'est-ce que vous entendez, Marion Tschigart, par harcèlement de rue? À partir de quand ça devient du harcèlement?
Alors, c'est toute proposition, contact, interpellation dans la rue qui n'est pas consentie, en fait. On ne parle pas de drague, bien sûr, où il peut y avoir un échange entre deux personnes dans la rue qui soit réciproque, mais là, on parle vraiment de quelque chose qui n'est pas choisi par les deux parties et qui est signifié par la personne harcelée, qui baisse le regard, qui dit non, qui continue son chemin, qui ne regarde pas la personne. Le message est clair. elles ne souhaitent pas cette interaction.
Un phénomène pénible à vivre pour toute femme.
Oui, ben, j'estime que l'espace public appartient autant aux hommes qu'aux femmes et on n'a pas à changer de rue, baisser le regard, refermer sa veste quand on se déplace dans nos rues. Et si le groupe Verfol dépose cette proposition aujourd'hui, c'est pour agir sur le comportement des hommes et des femmes et sur le long terme. Et c'est de dire que on n'accepte plus, en fait, qu'il y ait une différence de genre et d'utilisation de l'espace public dans nos rues.
Est-ce que c'est un phénomène avant tout urbain ou est-ce que ça se produit partout ?
Personnellement, je vis en ville, j'ai grandi en ville, donc j'ai pu constater par ma propre expérience que c'est un phénomène urbain. Je pense que c'est un phénomène, par contre, qui se généralise et qui existe autant à la ville qu'à la campagne. L'idée, c'est de montrer, en fait, que les harceleurs sont des personnes de toute nationalité, toute formation, et niveau social confondu, donc il n'y a pas de différence à ce niveau-là.
Jusqu'où peut aller la ville pour lutter contre ce phénomène du harcèlement de rue ?
Nous aimerions que la ville se dote d'un outil qui favorise la formation, la sensibilisation. On aimerait que le corps enseignant puisse ajouter dans ses modules de formation une sensibilisation au harcèlement pour que tout le corps enseignant soit bien au fait, en fait, de ce phénomène pour qu'il puisse ensuite, par son comportement et son enseignement, transmettre une manière en fait différente de concevoir les relations de genre.
Vous demandez donc que la ville agisse au niveau de la prévention. Est-ce que le phénomène du harcèlement de rue n'est pas si grave qu'il faille d'autres mesures peut-être plus répressives ou que les femmes elles-mêmes portent plainte plus souvent ?
Alors oui, l'idée c'est que l'arrêté favorise également la création d'applications mobiles, par exemple, qui favorisent en fait le dépôt de plainte, parce qu'il faut, pour qu'il y ait des résultats, il faut que les personnes puissent nommer le phénomène et puis déposer plainte. Ça passe aussi par ça, la sensibilisation, c'est que le phénomène est tellement grand et quelque part normal aujourd'hui, en tout cas considéré comme tel. Déposer plainte, c'est aussi dire qu'on a reconnu que le phénomène existe et qu'on ne l'accepte plus.
Anne-Caroline Graber, on vous retrouve une réaction à ce que vous venez d'entendre et une question surtout. Est-ce que vous faites, vous, l'expérience du harcèlement ?
Oui, vous savez, que, comme l'a dit l'intervenante précédente, c'est un phénomène qu'on observe plutôt en ville. Et puis, personnellement, j'apprécie pas énormément de fréquenter trop le milieu urbain parce que, justement, il y a parfois une promiscuité qui fait que les dérapages sont plus faciles. Mais bon, j'évolue aussi parfois en ville. Je pense que ce phénomène, qu'il faut tout à fait prendre au sérieux, est bien réel. Maintenant, les mesures sont assez difficiles à prendre. Mais je pense que c'est très important que les femmes portent plainte systématiquement, surtout en cas d'attouchement. Maintenant, pour des remarques, c'est beaucoup plus difficile. Mais en cas d'agression physique ou bien même de simple attouchement, je pense qu'il faut systématiquement porter plainte. Ensuite, je suis très, très sensible à la dignité des personnes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai déposé une motion qui a été acceptée récemment au Grand Conseil bernois par toutes les formations politiques qui demandent qu'on enseigne dans toutes les écoles du secondaire, du primaire ou de secondaire, l'école obligatoire dans le canton de Berne, les rudiments de l'autodéfense et puis la prévention de la violence. Et mon objectif, c'est pas seulement qu'on inculque aux femmes, mais aussi aux hommes, hein, qui sont aussi victimes de violence, quelques moyens simples de se défendre. Le but pour moi, c'est aussi de faire prendre conscience à chaque jeune, à chaque personne, qu'elle a le droit de défendre sa dignité, qu'elle a de la valeur et qu'elle a le droit de se défendre. Et ça peut, par exemple, être porté plainte. Donc pour moi, ces cours d'autodéfense, non seulement donnent des moyens de se défendre, encore une fois, mais ça renforce aussi l'estime de soi et la conscience d'elle-même qu'a une personne.
Est-ce que votre combat, vos valeurs en faveur de la dignité, mais de l'égalité des droits des femmes, n'est pas en contradiction parfois avec votre formation politique, l'UDC, qui fait valoir, on le sait, une vision plutôt conservatrice sur la question? On se souvient d'Ouli Maurer qui parle de la femme plus que jamais mieux au foyer. On se souvient aussi de cette section femme qui a disparu en tant que telle. Est-ce que pour vous, c'est pas en contradiction avec ce que vous venez de dire ?
Vous savez, l'UDC a dans le domaine une vision qui est conservatrice, mais qui est aussi libérale, dans le sens que l'UDC n'est pas favorable à des politiques interventionnistes, par exemple au quota. L'UDC, et en ce sens-là, je partage tout à fait cette préoccupation, et insiste beaucoup sur l'égalité des chances. Il est très important que chaque femme ait exactement les mêmes chances qu'un homme. Si une femme, par exemple, alors que c'est beaucoup moins fréquent, avant que de s'intéresser à des études en lettres veut par exemple être ingénieur, pour moi cette femme doit avoir les mêmes chances qu'un homme. Mais je suis, comme mon parti, pour ça je me sens bien dans mon parti, opposée à des politiques interventionnistes qui sont contraignantes, coercitives.
Ça passe donc par d'autres mesures, telles votre motion sur le cours d'autodéfense, par exemple, et d'autres choses. Merci Anne-Caroline Graber d'être venue nous parler de votre vision des droits de la femme à l'occasion de cette journée que nous avons vécue, à l'occasion de votre anniversaire, le 8 mars. D'ailleurs, tous nos voeux.
Et merci beaucoup.
On vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end.
Merci, pareillement.
Et maintenant, il est temps de recevoir notre prochaine invité, Manfred Buller. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous nous avez rejoint parce qu'on va parler de trafic ferroviaire. Vous êtes conseiller national, vous êtes membre de la commission des transports, mais vous êtes aussi maire de Corte-Hébert. On va voir ça à son importance, puisque la question qu'on se pose, c'est de savoir si les pendulaires qui prennent le train dans l'arc jurassien sont-ils bientôt les parents pauvres du réseau CFF, s'ils ne le sont pas déjà. La nouvelle stratégie de l'Office fédéral des transports inquiète plusieurs élus de la région. Le document transmis pour consultation au canton propose de redéfinir le trafic ferroviaire sur les grandes lignes. Et dans ce projet, les lignes Bienne-La Chaux-de-Fonds ou Bienne-de-Leymont sont déclassées avec qualité de desserte moins bonne qu'escomptée. Alors que ce soit au Parlement jurassien ou au Conseil de ville de Saint-Imier, les élus appellent leurs autorités à ne pas se laisser faire. Alors première question à vous, Manfred Buller. On est certes en phase de consultation, rien n'est gravé dans le marbre. Mais est-ce que malgré tout, vous partagez l'inquiétude des Imériens ou des députés jurassiens ?
Oui, bien sûr. Je crois que les deux lignes dont il est question, effectivement, donc bien de la Chaux-de-Fonds, qui serait appelée à devenir une ligne purement régionale, alors qu'elle a une importance plus importante actuelle, et puis la ligne Bienne-Bâle, finalement, par Delémont et Moutier, qui serait appelée à devenir une sorte de grande ligne de deuxième classe, d'après la classification. Cela m'inquiète parce qu'aujourd'hui, on a une très bonne desserte de la ligne, notamment Bâle via Delémont jusqu'à Bienne, avec des trains toutes les demi-heures. Et puis, si effectivement, elle était reclassée dans le réseau grande ligne de base, comme c'est prévu, eh bien, ça voudrait dire qu'il pourrait n'y avoir plus qu'un train par heure, ce qui est évidemment deux fois moins bon, et ça me paraît inacceptable.
Alors, avant de parler de la réponse politique à donner, on va s'attarder sur ces deux lignes un peu plus. Si le projet de l'Office fédéral des transports, donc, qui classe les lignes en premium, grande ligne et ligne régionale, il faut s'attendre donc à ne plus avoir aussi de train direct toutes les heures entre Bienne et La Chaux-de-Fonds. Quelles conséquences pour vous ? Qui, parmi les usagers, seraient les principaux perdants ? Les jeunes en formation, par exemple ?
En partie. Bon, il faut dire que les trains directs, évidemment, comme leur nom l'indique, ne s'arrêtent pas à toutes les stations. Donc, c'est clairement des localités comme Sonsbeau, Courtelary, Saint-Imier qui seraient en premier lieu perdantes, puisqu'elles perdraient finalement cette desserte via les trains directs entre Bienne et La Chaux-de-Fonds. Pour les petits villages comme Corte-Hébert, le mien par exemple, ça ne changerait pas grand-chose, puisqu'on a un train par heure, le train régional. Mais évidemment, c'est clair qu'on a une desserte dans les centres que je viens de citer avec les trains directs qui seraient potentiellement perdus. Si maintenant on nous assurait que cette desserte est maintenue, quand bien même la ligne passerait dans une autre catégorie, je pourrais vivre avec, mais moi je crois que péjorer l'offre, y compris dans les centres déjà d'importance moyenne que sont Saint-Imier, Courtelary et Sonsbeau, ça me paraît pas non plus jouable.
On a parlé de l'autre ligne concernée, un peu plus en détail maintenant. La ligne Neuchâtel-Bâle via Bienne et Delémont qui ne bénéficie plus de train direct, on le sait, depuis le nouvel horaire introduit en décembre 2015, en raison des travaux liés au projet Léman 2030. Manifestement, cette liaison pourrait ne pas être considérée donc comme une ligne de première importance. Pourrait-on, selon vous, ne jamais revoir des trains directs entre Bâle et Neuchâtel ? Au-delà de la cadence à la demi-heure et à l'heure, qui est aussi un paramètre très important, bien sûr. Mais sur cette question, la ligne directe.
Fondamentalement, j'espère que non, parce qu'il y a un accord qui a été donné et un engagement pris finalement par les CFF et les autorités à l'époque, où on a dit, pendant les travaux à la gare de Lausanne, effectivement, cette liaison directe doit être interrompue temporairement, mais elle sera remise en service quelques années après, dans les années 2020-2025. Et si cet engagement aujourd'hui, avec cette nouvelle classification, était renié, ça pose évidemment un gros problème. Donc je pense qu'il faut se battre pour maintenir cette liaison directe, clairement.
Que ce soit en tant que membre de la commission des transports, voire en tant que maire de Corte-Hébert, vous en avez parlé, quelle doit être, selon vous, la réponse politique à apporter ?
Alors je crois que tous les acteurs concernés, que ce soit les cantons, les communes touchées, également les associations régionales, que ce soit ensuite des organisations comme Westrail qui s'occupent de la planification ferroviaire, doivent vraiment se mettre d'accord sur une position commune, de rejeter en bloc ces propositions et puis d'avoir une position très ferme dans la consultation pour qu'il n'y ait pas le moindre doute quant à notre volonté de toute la région.
En ce moment, ce sont donc les cantons qui s'emparent du projet, qui sont consultés. Que pouvez-vous faire, vous, en tant qu'élu fédéral, en tant que membre de la commission des transports?
Alors c'est clair qu'en tant qu'élu fédéral, on n'a pas directement prise sur cette décision qui va se prendre, en tout cas pas à ce stade ici, mais c'est clair qu'en tant que membre du Parlement, avec aussi mes homologues jurassiens ou neuchâtelois, nous allons intervenir de manière informelle dans un premier temps, si nécessaire à la commission aussi, en posant des questions à l'Office fédéral des transports, en remettant en cause ses conclusions et ses propositions, et si en parallèle de ça, on a des résultats de consultation qui sont très clairs, avec une région unanime à défendre ses acquis légitimes, je pense qu'on arrivera à faire plier l'office dans le bon sens, comme ça a été le cas avec le tunnel du Weissenstein.
Manfred Buller, précisément, est-ce que les élus jurassiens, bernois, balois et neuchâtelois tirent à la même corde?
Alors, à ma connaissance, en tout cas, personne ne se réjouirait de voir ces déclassements de lignes. J'ai déjà pris connaissance de la résolution adoptée au Parlement jurassien. Je crois que Claude Hesch, conseiller aux États jurassiens, s'est aussi déjà engagé à critiquer et contester ces propositions. Donc, je pense qu'on va assez vite être sur la même longueur d'onde si on ne l'est pas encore.
On a l'impression que ça fait vraiment partie de vos priorités, hein, de faire en sorte que l'arc jurassien ne soit pas le parent pauvre de notre pays. Pour vous, les transports, c'est un des aspects les plus importants. On a parlé déjà d'économie. Les transports, pour vous, c'est vraiment un pilier, un axe principal sur lequel vous allez baser votre action.
Oui, bien sûr. Je crois que les transports, de manière générale, sont quelque chose d'essentiel parce qu'on sait que les choses, les activités économiques, les activités de l'État ont tendance à se concentrer sur le plateau suisse. Et puis, si on veut pouvoir encore vivre dans nos régions, peut-être en ayant aussi une place de travail à l'extérieur, parce qu'il y a certains phénomènes de concentration qu'on ne peut pas arrêter actuellement. Il faut un réseau de transport qui soit performant pour qu'on puisse continuer de vivre dans le vallon de Saint-Imier, à Moutier, dans le reste de l'arc jurassien, et puis travailler ailleurs si besoin est. Et ça me paraît essentiel. Le rail est une composante essentielle, mais 80% des transports de personnes se font encore sur la route. Donc là aussi, avec l'ouverture de la 16 le 3 avril, je me réjouis de voir une infrastructure essentielle qui sera terminée.
Précisément, hein, l'ouverture de la 16, le dernier tronçon entre Cour et Lovresse sur la Transjurane, qui va ouvrir au trafic dans moins d'un mois. Manfred Buller, est-ce que ça ne va pas créer un appel d'air sur les routes? Vous m'avez parlé déjà de 80%, donc c'est massif. Mais est-ce que ça ne va pas encore détourner les usagers du train, des trains qui ne donnent pas toujours satisfaction?
Non, je ne pense pas. Je crois que le choix de prendre le train ou prendre la voiture, il est dicté par d'autres considérations que le simple petit confort. Je crois qu'il y a des questions de durée de trajet, il y a des questions de savoir si la localité où on habite est accessible en transport public complètement ou seulement partiellement. Et je pense que dans une région comme la nôtre, la voiture est indispensable parce qu'on ne peut pas avoir un maillage de transport public aussi fin qu'autour d'une ville de Berne, par exemple, où vous avez des trams toutes les 7 minutes et puis où une voiture n'est plus du tout indispensable. Chez nous, la voiture est indispensable, une bonne autoroute est indispensable, et le jour où le contournement de Bienne sera achevé aussi, je pense qu'on aura vraiment une bonne infrastructure qui complète le rail.
On a l'impression que ces projets de l'Office fédéral des transports, qu'ils touchent le transport régional ou qu'ils touchent la priorisation des lignes, régulièrement ça revient sur le tapis, hein, les régions périphériques, sont sous pression. Qu'est-ce qui fait que ça revient régulièrement sur le tapis alors que les régions ont l'occasion de dire tous les 5 ans leur attachement à leur transport, que les régions se densifient? Comment expliquer qu'on en arrive toujours à ce genre de lutte?
Bon, je crois que c'est normal, hein, dans une démocratie comme la nôtre, l'État doit investir un certain nombre de francs et de centimes dans les infrastructures de transport. Les infrastructures de transport public coûtent, notamment le trafic régional qui est déficitaire, ça c'est une réalité. Les grandes lignes par contre sont en principe bénéficiaires, donc là il y a un équilibre à trouver et je crois qu'il est légitime de se poser ces questions. C'est bien sûr irritant lorsqu'on risque toujours de perdre quelque chose, mais je crois qu'on est aussi là, nous responsables politiques, et même les usagers pour faire en sorte de ne pas avoir cette perte aussi. Moi, j'appelle évidemment toute personne qui peut le faire pratiquement à prendre bien sûr le train et les transports publics. Plus on prend le train, plus la couverture est bonne et moins il est justifié de déclasser les lignes.
L'appel est lancé. Merci Manfred Buller de nous avoir rejoint dans Place Publique pour évoquer donc ce projet de l'Office fédéral des transports qui n'en est qu'à ses débuts, à la phase de consultation, mais qui a des enjeux, qui porte des enjeux risqués pour l'arc jurassien. On se réjouit de suivre l'évolution du dossier et auquel cas peut-être votre action au niveau fédéral quand ce sera le moment. Bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Et c'est tout pour Place Publique. Merci à nos invités. Merci à Yves Landonneau pour la réalisation. Retrouvez cette émission sur nos applications ou bien sûr sur Internet, sur rjb.rtnrfj.ch. Bon week-end, à vendredi prochain.
Place Publique.